Petit manuel de travail dans l'espace public, à la rencontre des passants, de Jérôme Guillet. Paru le 23 mai 2019 aux éditions du Commun. Extrait. À Tours, au sein du collectif Les Arts Politiques, nous nous engageons en 2001 et durant 3 années dans de multiples expérimentations. Il y a d'abord dans notre groupe le désir de maintenir un équilibre entre certaines forces en présence. Le commerce compose la majorité des relations qui s'amorcent dans les espaces publics. La communication publicitaire occupe l'essentiel de ce qui s'affiche et le développement technologique isole chaque jour davantage les passants. Face à ces 3 phénomènes qui interagissent et se renforcent, nous sentons la nécessité de maintenir et d'amplifier les relations directes, de créer davantage de discussions impromptues entre inconnus. Nous nous revendiquons alors animateurs de rencontres, considérant les espaces publics comme terrain d'éducation populaire, notion que nous comprenons alors comme la tentative de diffuser des contenus, des messages à caractère politique de manière populaire, accessibles à différents milieux sociaux, culturels et à différentes générations. Sortir de l'entre-soi sera donc notre principale préoccupation. L'impulsion qui nous porte alors provient du refus de ce que nous entendons dans les milieux associatifs, syndicaux et politiques que nous fréquentons, à savoir l'impossibilité de toucher un vaste public qui serait trop conditionné, trop influencé, trop conformiste. Dit de manière plus directe, nous évoluons dans un environnement où l'on entend souvent, pour expliquer le faible nombre de participants à nos événements, ou la trop grande homogénéité socioculturelle, que les gens sont trop cons ou trop victimes, de l'intoxication médiatique entre autres, pour constituer un public qui s'intéresse à ce que nous faisons. L'époque n'est pas très gilet jaune, et ce que nous nommons les beaufs ou les Français moyens n'attire guère la compassion et le questionnement. Entre cette France de TF1 dont nous nous sentons si loin, représentée par des blancs de droite, partisans de l'ordre, à nos yeux coupables de leurs idées, de leur vote et de leur situation sociale à peu près confortable, la bourgeoisie nécessairement conservatrice, et cette France des classes populaires pour lesquelles nous avons davantage de bienveillance mais qui constituent tout autant des proies faciles pour les médias de masse, la liste de ceux que nous pensons perdus à nos causes semble sans fin. Nous sommes alors tiraillés entre un sentiment global d'impuissance et la conviction que quelque chose ne fonctionne absolument pas dans cette façon de voir les choses. Derrière le découragement compréhensible de certains militants, un mépris pour des franges massives de la population se dessine, auxquelles nous ne pouvons pas adhérer. D'abord parce que plusieurs d'entre nous ont parmi leurs proches quelques-uns de ces Français moyens, de ces ouvriers ou de ces bourgeois, et que nous ne pouvons pas, malgré nos désaccords, les considérer uniquement comme des victimes ou des idiots. Ils sont plus complexes, plus nuancés, plus ambigus que dans la vision où nous pourrions les enfermer. D'ailleurs, le fait de les connaître nous aide à garder à l'esprit une chose fondamentale. Pour qu'une personne évolue dans ses représentations ou ses pratiques, ne serait-ce qu'un peu, elle a d'abord besoin de sympathie, d'affection et de compagnonnage. Les arguments ne viennent qu'après. Or, dans la sphère militante dans laquelle nous évoluons, nous avons justement un problème pour accueillir l'autre de façon sympathique. Ce que nous lui proposons, la plupart du temps, c'est de venir à l'une de nos réunions. Une de ces réunions au cours desquelles il faut, pour exister, savoir réinvestir une partie de ce que l'école nous a appris. Préparer son intervention, lever le doigt, s'exposer en public, argumenter, convaincre, objecter. Des réunions souvent interminables, dans lesquelles se jouent d'obscures luttes de pouvoir, où des individus, très souvent des hommes, produisent de longs monologues en truffant leurs interventions d'allusions et de références entendues. Malgré le peu de culture sociologique que nous avons à l'époque, nous sommes tout de même capables de comprendre qu'accueillir ainsi des gens extérieurs à nos sphères, c'est un peu comme les accueillir à coups de bâton. Tous ceux qui ne sont pas dotés d'un capital scolaire, culturel, voire d'un capital militant, ne se sentent pas très à l'aise dans ce type de rassemblement. Nous réalisons alors que nous exerçons sur eux une grande violence symbolique en leur demandant de maîtriser des connaissances qu'ils n'ont pas, ainsi que l'art du langage et de la démonstration. Tout en dénonçant régulièrement avec force et rage l'exclusion provoquée par les systèmes scolaires ou représentatifs, nous produisons à notre tour de l'exclusion en masse. L'autre problème en matière d'accueil, peut-être moins évident à percevoir, concerne ces endroits où nous nous rassemblons, dont l'identité est souvent si forte qu'ils fabriquent des frontières bien gardées. une université, une salle municipale, un café, une librairie, un centre social sont toujours trop quelque chose pour celui qui ne les fréquente pas. Trop intello, trop populo, trop bourgeois, trop jeune, trop cassos, trop vieux, trop anard. Entrer dans un lieu, c'est se soumettre à ses usages, à son langage, aux règles de ceux qui l'habitent, car celui-ci est toujours perçu, à tort ou à raison, comme réservé à une catégorie de population, à l'exclusion de toutes les autres qui ne s'y identifient pas et ne s'y retrouvent pas au sens propre et figuré du terme. Par contraste, certains espaces publics sont peu connotés, permettent de multiples usages et offrent une perméabilité sociale. Ainsi, la place de la gare peut devenir, selon le public et le moment, un lieu d'attente, de rendez-vous, de mendicité, de pique-nique, un endroit pour manifester. Accessible à tous, sans nécessité d'adhésion ou maîtrise de code, ce type d'espace offre une liberté de comportement, relative mais suffisante, pour que se créent des hétérogénéités sociales, culturelles et générationnelles. Certes, tous ces gens différents ne font que se croiser, mais ils sont là, temporairement réunis et potentiellement accessibles. Où les trouver ailleurs ? Notre tentative ne pouvait que s'inscrire dans le cadre de ces places, rues et boulevards, jardins, squares, parcs, centres commerciaux, galeries marchandes, ou tout autre espace de rassemblement, festivals, foires, etc., pourvoyeurs d'hétérogénéité. C'est dans ces espaces qu'avec les arts politiques, nous tentons tout d'abord de créer des modules d'information, c'est-à-dire des expositions intrigantes, mi-tracts, mi-textes illustrés, avec le souci de sensibiliser un large public à nos préoccupations. Le succès de nos premiers essais nous pousse à nous diversifier et nous proposons des scénettes, des happenings et des repas gratuits. Nous commençons même à intervenir dans des festivals. Or, malgré nos efforts pour changer les lieux de l'échange et les formes de l'interpellation, notre volonté de faire passer des messages ne modifie pourtant pas un aspect fondamental de la situation. Nous sommes et restons des individus issus des classes moyennes et de la gauche critique qui désire éclairer les citoyens sur les méfaits du monde tels des professeurs. Ce que nous découvrons de manière accidentelle puis très progressive en expérimentant des procédés centrés uniquement sur l'écoute des passants va bientôt passionner ceux d'entre nous qui souhaitent le plus se libérer de cette position. L'apparition et le développement de l'outil porteur de parole, dans lequel c'est le public lui-même qui produit le contenu, nous apparaît alors comme la solution, le dispositif avec lequel nous n'aurons plus rien à apprendre aux gens.